Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 69e épisode. Dans cet épisode, je tente de répondre à la question « Devez-vous, pouvez-vous parler de BDSM avec votre médecin traitant ou autre ?» Point d'interrogation. Avant de commencer, deux petites remarques. J'ai déjà parlé du sujet des médecins face au BDSM dans mon épisode numéro 26 qui s'appelait « BDSM et sécurité, qui croire ?» dans lequel j'expliquais que c'est très difficile de savoir à qui se fier quand on parle de « entre guillemets sécurité » parce que c'est vraiment un très grand mot, très surfait dans le contexte du BDSM. Et je parlais du sujet des médecins très rapidement dans l'épisode précédent, le 68, qui était intitulé « Tant que c'est entre adultes consentants, le piège ». Si vous n'avez pas écouté cet épisode 68, je vous explique très brièvement. J'y expliquais pourquoi certaines expressions sont sournoisement toxiques tout en ayant l'air faussement positives. L'expression « tant que c'est entre adultes consentants » est une des pires à mon avis, et j'expliquais pourquoi les personnes qui s'en servent peuvent bien souvent en fait s'en servir pour masquer de l'ignorance, éventuellement du rejet du BDSM. C'est un très gros problème. Mais comme j'avais beaucoup à dire dessus, j'ai séparé avec l'épisode précédent, parce que vous imaginez bien que j'allais pas discuter comme ça une demi-heure de plus dans cet épisode-ci, sinon ça aurait été trop long. Donc dans cet épisode, je vais en reparler, mais alors beaucoup plus brièvement. Si ce sujet-là vous intéresse, il faut vraiment que vous écoutiez le 68. Mais rassurez-vous, l'avoir écouté ou ne pas l'avoir écouté ne fera pas une trop grande différence pour cet épisode-ci. C'est pas dramatique. Un avertissement avant d'entrer dans le vif du sujet. À une fin d'exemple, je vais évoquer, même si c'est de façon globale sans entrer dans les détails, le sujet des simulations de viol qui font partie du CNC, le Consensual Non-Consent, et le problème des viols en général. Ce ne sera pas une discussion détaillée, il n'y aura pas d'exemple ou quoi que ce soit, c'est juste que ce sujet me servira pour illustrer un point important, donc je vais en parler même si c'est pas en détail. Je préférais prévenir à tout hasard. Première partie, pourquoi ce sujet ? Le BDSM, c'est encore quelque chose de très mal compris, il y a encore beaucoup de questions qui se posent dessus. Quand on veut se lancer, notamment, on a beaucoup d'hésitations, c'est naturel, mais même quand on en fait, on peut avoir plein de questions, et on peut avoir des problèmes qui font qu'on aura envie d'aller voir un médecin. L'exemple le plus évident à comprendre, c'est par exemple si vous faites des choses du genre sadomasochisme avec un fouet, une canne, ce genre de choses qui laissent des traces, et peut-être que vous allez avoir besoin parfois, ou en tout cas envie d'aller consulter quelqu'un qui pourra répondre à des questions du genre comment traiter telle ou telle chose, surtout si vous avez fait quelque chose qui s'est un peu mal passé, qui a eu un coup au mauvais endroit, ce genre de choses. Bref, un accident, même mineur, hein. Il est très difficile de trouver des informations fiables sur BDSM, surtout quand on parle de problèmes de santé, de sécurité, c'est un bien grand mot, et de ce genre de choses. Du coup, la question est très souvent évoquée, vous la trouvez régulièrement sur les forums de discussions sur BDSM, dans différents sites sociaux sur BDSM, vous pouvez l'entendre lors d'événements aussi. C'est une question parfaitement légitime, c'est comment est-ce que je peux faire pour trouver des médecins ? Typiquement, on parle du généraliste, mais parfois il y a aussi des demandes pour des psychologues, ce genre de choses. Et donc l'idée est, comment puis-je trouver un médecin qui ne va pas me juger ou qui va pas mal réagir à ce que je vais dire ? Et vu à quel point le BDSM, c'est encore très tabou, très mal compris, c'est une question qui est très légitime et qui a une vraie raison d'exister. Parce que vous pouvez trouver aisément des témoignages de personnes qui vous diront que ça s'est mal passé. C'est-à-dire qu'une personne tente de parler de ce genre de choses à un médecin et ça part dans une mauvaise direction avec plein de soucis et des fois ça brise la relation de confiance. J'avais par exemple entendu un témoignage d'une femme qui disait qu'elle avait une très bonne relation avec, je crois que c'était sa psychologue, et un jour elle avait voulu aborder le sujet du BDSM et là elle avait été très surprise par la réaction négative de sa psychologue. C'était passé directement dans des considération d'abus, de choses comme ça, un rejet aussi de ce qu'elle disait. Bref, ça s'était très mal passé, et elle disait en gros qu'elle pouvait plus retourner la voir, parce que ça avait brisé la relation de confiance construite au fil des années. C'est un très gros problème, et ce n'est qu'un témoignage parmi de très nombreux témoignages. J'ai personnellement rencontré des gens qui m'ont dit des choses qui m'ont fait, mais vraiment, me poser beaucoup de questions sur certaines attitudes, et qui m'ont consterné, parce que vous avez des fois des rejets qui sont forts, ou bien vous avez le « vous êtes un malade mental, on n'ose pas directement vous le dire, mais faut vous soigner monsieur, ou faut vous soigner madame ». Et ça, je l'invente pas, parce qu'on me l'a vraiment raconté, hein. C'est vraiment arrivé à des gens que j'ai croisés lors de réunions BDSM. Ce qui m'a amené à traiter ce sujet aujourd'hui, ça faisait longtemps que je voulais en parler, c'est que j'ai vu il y a pas longtemps un médecin, soi-disant médecin, parce que j'aimerais bien vérifier ses diplômes, vu ce qu'il disait. Mais en tout cas, il se présentait comme un médecin, et ce qu'il disait était bourré de délire sur le BDSM. Son discours, c'est simple, c'était que des mythes qui sont pourtant dénoncés depuis longtemps, mais il se présentait comme « je sais de quoi je parle ». Ce que vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous avez des personnes qui au moins ont l'honnêteté de dire qu'ils connaissent pas trop, ça peut encore passer. Mais là, quelqu'un qui se présente comme étant quelqu'un qui connaît le sujet, qui en plus se présente, même si j'ai des doutes, comme étant un médecin, c'est extrêmement grave d'avoir des personnes comme ça qui disent n'importe quoi. Et là, vraiment, hein, je veux dire vraiment n'importe quoi, hein, même sur des choses de base. Un autre problème que j'ai rencontré plusieurs fois dans le passé, c'est que j'ai vu sur des forums, etc., dans des magazines, des journaux sur internet, qui donnaient par exemple des conseils aux jeunes, donc là, par jeunes, ils voulaient dire les mineurs, hein, bien sûr, que, étant donné que les médecins sont des professionnels, etc., le mieux c'est d'aller parler de sexualité, et aussi de BDSM, dans le cas qui nous intéresse, à un, entre guillemets, pro de la santé, parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des renseignements qui sont fiables. Évidemment, vous me direz que ça peut pas être pire que de demander conseil aux copains ou à la copine, ou bien d'aller regarder du porno, hein, parce qu'alors là, c'est vraiment difficile de trouver pire comme conseil. Mais le problème de ce genre de conseil, c'est que c'est un très mauvais conseil. Pour la sexualité, je vois pas trop de mal à ça, mais pour le BDSM, je vais l'expliquer dans les parties suivantes, c'est un gros problème. Le BDSM, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé. La sexualité, déjà, c'est pas quelque chose qui est maîtrisé par tout le monde. Ça s'entend, c'est normal, c'est pas pour rien qu'il y a un métier qui s'appelle sexologue, et différents métiers un peu du même genre, mais je passe les détails. Je m'attends pas à ce que le médecin moyen connaisse toutes les subtilités de toutes les choses possibles sur le sexe, c'est normal, mais une personne ayant une éducation médicale saura répondre quand même à beaucoup de questions, et puis étant adulte, saura tout simplement hein, répondre aux questions les plus basiques, les plus normales. Pour la plupart des gens, ce sera facile. C'est pas le cas pour le BDSM, parce que le BDSM, c'est pas quelque chose que la plupart des gens pratiquent, c'est pas quelque chose que la plupart des gens connaissent, et les connaissances sur le BDSM sont beaucoup moins fortes que sur la sexualité en général. Et pourtant, la sexualité en général, il y aurait beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de problèmes. Mais ça se compare pas au BDSM. Le BDSM, en comparaison, c'est terra incognita, hein, c'est vraiment les territoires qui sont encore très inexplorés. Donc moi, quand je vois passer ce genre de conseils qui, certes, partent d'un bon sentiment, je suis extrêmement alarmé, parce qu'en réalité, c'est un très mauvais conseil, mais les gens qui donnent ce genre de conseils ne se rendent pas compte de ça parce qu'ils n'ont pas le recul. Ce qui est assez normal, hein, je le comprends très bien. Alors quel est le problème sous-jacent? C'est très simple, hein, je viens déjà de le dire. Le problème, c'est que le BDSM, pour l'instant, c'est mal compris. Du coup, on peut pas vraiment exiger de la part de médecins, même de spécialistes, sexologues par exemple, qu'ils sachent beaucoup de choses, et surtout de façon rigoureuse. Parce que savoir des choses, c'est une chose, mais là je parle de savoir des choses qui sont vraies, hein, on se comprend. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, malheureusement, les trois quarts sont totalement fausses. C'est pas par hasard que j'insiste lourdement sur les mythes, les idées fausses. Même parmi les gens qui font du BDSM, il y a énormément d'idées fausses, de mythes, de problèmes en tout genre. J'arrête pas d'en parler, de dénoncer ce problème. On peut pas vraiment demander à quelqu'un qui en plus ne fait pas de BDSM soi-même, d'avoir plus de connaissances que ça. Donc là, on est en train de demander l'impossible. C'est aussi simple que ça, on demande l'impossible. Il n'y a pas d'études réellement sérieuses, en nombre, en profondeur, qui répondent vraiment à toutes les questions. J'exagère en disant toutes les questions, parce que ça c'est impossible, mais je veux dire suffisamment à toutes les questions classiques au moins, parce qu'il y aura toujours des questions très ésotériques sur lesquelles on n'aura probablement jamais de réponse, mais c'est pas très grave. L'important, c'est au moins le cœur du BDSM, les choses qui intéressent le plus grand nombre. C'est normal, c'est comme pour le sexe hors BDSM. Il y a un certain nombre de choses qui intéressent plus les gens, hein, c'est normal. Mais sur le BDSM, on n'a pas ça. On a, depuis 20-30 ans, une montée d'études un peu plus sérieuses et des fois des choses vraiment intéressantes qui ont combattu un certain nombre de mythes. Par exemple, c'est avec ces études que j'ai pu montrer que en France, par exemple, on a environ 5 millions d'adultes qui font du BDSM. De toutes les façons possibles, hein, je veux dire aussi bien des choses très légères que des choses extrêmement intenses. Vous voyez, ça a pu être confirmé par un certain nombre d'études, même si certaines qui étaient mal faites donnaient des chiffres beaucoup plus bas, mais c'est parce qu'elles étaient mal faites, mal comprises, les questions étaient mal posées, etc. Trier dans les études existantes, c'est dur. Je peux en parler parce que ça fait des années que je me renseigne sérieusement pour mon site, que je vais consulter justement des études et que je suis consterné, vous m'excusez, hein, je l'ai déjà dit des tas de fois dans des articles et dans des épisodes, mais je suis consterné par le fréquent manque de qualité d'études présentées comme étant sérieuses. Je précise sérieuse parce qu'il y en a, c'est n'importe quoi, hein. C'est fait par des gens qui clairement ont zéro esprit scientifique, ils prétendent que c'est une étude, mais ce sont juste des opinions anti-BDSM présentées comme scientifiques, mais c'est bidon. Par contre, si on regarde celles qui sont faites par des gens qui sont présumés sérieux, c'est trop souvent bourré de n'importe quoi. Et franchement, j'aurais du mal à vous sortir plus d'une poignée, je prétends pas avoir tout lu non plus, plus d'une poignée dans lesquelles j'aurais pas des choses à redire. Même certaines des études les plus connues, certains des ouvrages les plus connus, j'en ai un ou deux en tête là, sur lesquels j'ai déjà écrit, contiennent des erreurs monumentales. Et attention, soyons bien clairs, je ne parle pas de choses qui sont super rares, des choses un peu extraordinaires, des choses ésotériques. Non, je parle de choses de base, de choses que quelqu'un qui s'est intéressé, éventuellement qui en a fait, mais pas forcément, qui au moins s'est sérieusement intéressé au BDSM, qui a réfléchi et pris du recul, ces personnes-là devraient être capables de dire que c'est une erreur, au mieux, du n'importe quoi au pire. Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs qui tombent dans les panneaux les plus affolants, et donc qui vous ressortent des mythes qui sont absolument monstrueux, et certains sont super toxiques. Je vais vous citer juste quelques exemples. Je vais pas détailler parce que ça va peut-être vous surprendre ce que je vais dire. Je vais pas détailler dans cet épisode-ci, ça va venir dans des épisodes suivants, mais ces sujets sont abordés sur mon site en long, en large, en travers. Donc si vous avez des hésitations, si vous comprenez pas de quoi je parle, ce qui est assez probable, vous pourrez trouver des explications détaillées sur mon site. Le premier point que je voudrais soulever brièvement, c'est le sujet des mots d'arrêt. Les mots d'arrêt, ça fait des années que j'explique que c'est extrêmement dangereux quand on débute. Ce sont pas des outils qui sont miraculeux, qui vont vous sauver des problèmes ou de gens abusifs, contrairement à ce que trop de personnes disent. J'ai écrit un article entier dessus et je vais faire un épisode dessus, hein, donc je vais pas entrer trop dans les détails, mais ça, vous aurez du mal à trouver des personnes qui vous disent que non, les mots d'arrêt, c'est pas la solution magique. Vous aurez beaucoup de mal à trouver des gens qui critiquent l'usage des mots d'arrêt, qui les remettent à leur juste place, parce qu'ils ont une place. Mais cette place, il faut la comprendre, et non, ce n'est pas quelque chose d'indispensable, c'est quelque chose qui est dangereux. Et ça, vous avez une quasi-certitude, quand vous tombez sur des gens qui n'ont pas le recul, vous avez une quasi-certitude qu'on va vous dire « c'est indispensable ». Non, ça l'est pas. Ça montre, quand des gens disent ça, qu'ils n'ont pas le recul. Et ça, vous pouvez aller regarder dans des études et vous verrez, c'est presque jamais évoqué. Je pense même pas que j'ai trouvé un exemple où ce soit évoqué. Un deuxième exemple rapide, ce sont les fameuses, ce que j'appelle les philosophies du BDSM, les philosophies de sécurité, entre guillemets, le SSC et le RAC. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, j'en reparlerai en long, en large, en travers dans un épisode qui viendra, j'espère, bientôt. Ces philosophies vous sont souvent présentées comme étant évidentes, indispensables, vraiment des choses on peut pas faire sans. Sauf que c'est totalement faux. Ces philosophies ont plein de problèmes, j'ai écrit un énorme article dessus. Elles ont plein de problèmes, et je vous donne directement la conclusion de l'article que j'ai écrit dessus. Elles ont été dénoncées par leurs propres créateurs comme posant plus de problèmes qu'autre chose. J'ai laissé un instant là pour que vous compreniez la portée de ce que je viens de dire. Les créateurs de ces deux philosophies ont explicitement écrit que ce serait mieux de s'en débarrasser. Vous imaginez? Et à côté de ça, si vous faites une recherche sur ces deux mots-clés, vous verrez que des gens qui vous disent « c'est indispensable, il faut absolument connaître, il faut appliquer le SSC, il faut appliquer le RAC, il faut ceci, il faut cela ». Excusez-moi, mais il me semble que les créateurs de ces deux philosophies, ils savent un tout petit peu mieux que la moyenne qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qui ne l'est pas, et si eux-mêmes ont dit que c'était pas du tout indispensable et que c'était un problème, je soupçonne qu'on peut leur faire confiance. Et c'est un gros problème parce que vous pouvez trouver énormément d'articles, d'études, etc. qui vous sortent ça comme étant évident et souvent obligatoire, et même vous pouvez vous faire malmener si vous dites que non, c'est n'importe quoi ou que vous les suivez pas parce que ça a pas de sens, etc. Juste pour être clair, hein, le SSC, le RAC, tout ça, ça part de bonnes intentions. Mais les bonnes intentions, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin que les bonnes intentions. Le BDSM, il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes intentions, qui propagent des tas d'idées. Avec la meilleure des bonnes volontés, je le sais, hein, je le reconnais, je sais que c'est quelque chose qu'ils font dans un espoir d'être positif, dans un espoir d'aider, je le sais. Mais ça suffit pas de vouloir bien faire. Et malheureusement, un très 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 grand nombre de mythes, hein, je l'ai déjà dit dans mes épisodes sur les mythes, sont propagés comme ça par des personnes qui veulent bien faire. Malheureusement, elles ont tort, et elles font du mal, sans le vouloir, je vais être bien clair, sans le vouloir, mais elles font quand même du mal, et parfois beaucoup de mal, sans s'en rendre compte la plupart du temps évidemment. Je reprends brièvement. Le BDSM, c'est encore très mal connu, très mal étudié. On ne peut pas reprocher aux médecins de ne pas avoir sous les yeux, et donc de ne pas avoir appris, de ne pas avoir pu étudier le sujet. Parce que c'est très difficile d'étudier un sujet qui n'a pas été vraiment étudié. Donc ils auront peut-être un certain nombre de connaissances, et ils auront certainement un certain nombre d'idées fausses et de mythes en tête. Ce qui est normal, puisque ces idées fausses, ces mythes, sont propagés partout. Je vois pas comment on pourrait leur demander par magie comme ça de savoir distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, alors que la plupart des gens en sont pas capables. Hein. Faut pas non plus demander l'impossible. Du coup, pour moi, ça pose un très gros problème et ça rend très difficile et très délicat de parler du sujet. Et c'est particulièrement sensible quand on parle ou veut parler à son médecin traitant, qui est quelqu'un qu'on fréquente sur la durée, évidemment, et que vous ne voulez pas qu'il garde en tête des mauvaises idées sur vous parce qu'il comprend pas le sujet. Mais tout ça, je vais en parler dans la partie suivante. Deuxième partie, le risque, les problèmes. Je viens d'expliquer, faut pas s'attendre à ce que le médecin moyen ait de bonnes connaissances du BDSM, même s'il en fait ou si elle en fait, même s'il ou elle a étudié le sujet. C'est normal, hein. On peut pas leur faire reproche puisqu'il n'existe pas réellement d'études dessus, donc faut pas demander l'impossible, c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, quel est le risque? Quel est le problème de vouloir en parler? C'est tentant, évidemment, hein, d'en parler. C'est parfaitement naturel de vouloir partager quand même avec des gens dont vous savez qu'ils ont fait des études de médecine, etc. Donc ils savent beaucoup de choses et pour un certain nombre de sujets, ce sont les meilleures personnes pour vous aider. Et là, je vais commencer en prenant un exemple, entre guillemets, violent, volontairement, pour vraiment bien montrer à quel point ça va être difficile. Un sujet qui perturbe beaucoup de personnes, c'est le sujet, parmi les sujets tabous que j'ai déjà évoqués dans l'épisode 52, quand j'ai parlé des jeux de race, entre guillemets, ce sont les célèbres sujets de type CNC, consensual non-consent, parmi lesquels vous trouvez les simulations de viol, ou les fantasmes de viol. S'il y a bien un sujet qui est difficile à aborder, qui est stressant pour beaucoup de personnes, voire traumatisant, c'est bien celui-là. Même le sujet des jeux de race et donc du racisme, etc., que j'ai abordé dans l'épisode 52, c'est rien en comparaison de ce sujet-là. Et déjà, c'était un gros sujet avec un gros problème. Ce sujet-là, c'est pas quelque chose dont on peut parler avec n'importe qui, avec la première personne venue. Je fais un petit rappel super rapide. Le fantasme de viol, le problème de simulation de viol, etc., ça fait partie du top des fantasmes sexuels de la population en général. C'est pas spécifique au BDSM, je vais pas entrer dans les détails de pourquoi c'est rattaché au BDSM, c'est essentiellement parce que seules les personnes qui font du BDSM en parlent ouvertement. Dans ma conception, en tout cas, c'est la vraie raison. Et parce que c'est un sujet dérangeant. C'est un sujet qui est super hyper sensible. Déjà, parler des vrais viols, c'est difficile, hein. C'est un sujet qui est super difficile, je vous apprends rien en disant ça. Mais là, parler d'un sujet où on dit « j'aimerais faire semblant de me faire violer », par exemple, pour beaucoup de gens, de façon vraiment totalement compréhensible, ça ferait dresser les cheveux sur la tête, ça ferait penser « il ou elle est cinglé », ce genre de choses. Bien que ce soit super répandu, il y a quand même des réactions très vives, parce que c'est difficile de reconnaître que c'est très répandu. Ça crée beaucoup de problèmes et les gens ont du mal à le croire, mais c'est vrai, hein. Je précise une chose, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes et dans des articles de mon site, mais quand je dis des choses comme ça, ce sont pas mes opinions. Surtout ne croyez pas que ce soit ça, hein. Ce sont pas juste des constats personnels, vagues, etc. Hein. Là, je pourrais vous montrer des études qui prouvent que c'est vrai ce que je viens de dire, hein, pour être bien clair, pour éviter les malentendus. Donc c'est un sujet hyper tabou, et c'est très difficile d'en parler. Personnellement, je ne me hasarderais pas à en parler comme ça à une personne rencontrée au hasard. Déjà, le sexe en général, j'évite, parce que je suis toujours effrayé par les idées reçues bizarres de la plupart des gens que je rencontre, mais des sujets comme ça, j'oserais même pas imaginer en parler. Je pense même pas que j'aborderais ça facilement lors d'un événement BDSM, parce que c'est trop sensible, et même dans les milieux du BDSM, entre guillemets, il y a beaucoup de personnes qui réagissent très mal à ce genre de choses, et qui s'imaginent plein de choses parce qu'ils comprennent pas de quoi on parle. Ce qui est assez compréhensible, vu que l'éducation sexuelle est un peu pathétique en France, ce genre de sujet, c'est pas vraiment le numéro un dont on parle dans les cours d'éducation sexuelle, donc c'est un petit peu difficile de réaliser qu'en réalité, c'est super répandu. Et c'est perturbant. Quand on connaît pas, c'est perturbant de penser que c'est répandu. Quand on connaît pas. Maintenant, essayez donc d'imaginer, est-ce que vous oseriez en parler comme ça, même à vos meilleurs amis? Ça laisse à réfléchir, pas vrai? Alors vous vous dites, voilà un bon exemple de choses dont on pourrait parler à un tiers et notamment un professionnel. Ça a totalement du sens. Mais est-ce que vous oseriez vraiment en parler à votre médecin traitant? Si oui, alors vous commettez une grosse erreur, je vais revenir dessus, mais franchement, je pense que c'est pas évident du tout. Dans la partie suivante, je parlerai d'autres types de médecins, notamment les psychologues, avec qui ce serait peut-être plus facile d'aborder le sujet, mais je vais en parler tout à l'heure. Vous voyez, quand on parle de sujets tabous quand même, franchement, il y a de quoi hésiter. L'intention d'aller en parler à un tiers est raisonnable et a totalement du sens. Maintenant, encore faut-il trouver la bonne personne, et vous n'avez aucune idée, pour un sujet aussi sensible, de quelle sera la réaction de la personne en face. Personnellement, j'ai déjà vu des réactions absolument horribles pour des sujets qui sont beaucoup, beaucoup moins choquants, ne serait-ce que l'homosexualité. Il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Et là donc, on parle de quelque chose qui est super sensible. Si jamais vous êtes face à quelqu'un qui connaît pas le sujet, qu'est-ce que la personne va penser? Peu importe que ce soit un médecin ou pas un médecin. La première chose qu'une personne moyenne pense, c'est que vous avez l'intention de violer quelqu'un. C'est évident. Mais ça n'a rien à voir avec ça, hein. Je veux être bien clair. L'idée du fantasme de viol, c'est juste une idée de faire un jeu de rôle avec quelqu'un quand on est typiquement au lit avec le copain, la copine. Je simplifie en disant ça, vous m'en excusez, mais l'idée de base, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec un vrai viol. Faut être bien clair à ce niveau-là, parce que les gens qui connaissent pas, ils comprennent pas ce point-là, qui est pourtant super important. Et la probabilité que vous tombiez sur quelqu'un, même quelqu'un qui est du milieu médical, à part dans une certaine mesure les sexologues qui connaîtront ce point-là, à part ce cas-là, vous avez une presque certitude que la personne ne va pas entendre « j'ai des fantasmes de viol dans un contexte BDSM », c'est-à-dire ce que je viens d'expliquer à l'instant, faire un jeu de rôle. Et la personne, elle va comprendre le mot « viol » et immédiatement sauter à la conclusion que vous avez des idées malsaines, criminelles, etc. C'est assez naturel comme réaction, je veux dire, c'est assez compréhensible, mais c'est un gros problème. Imaginez que vous êtes devant votre médecin et vous dites « ah bah j'ai envie de tuer mes voisins », de façon sérieuse, je veux dire, pas en rigolant. Vous imaginez la réaction. Là, ça va être la même chose. La réaction parfaitement naturelle, ça va être d'être au mieux extrêmement inquiet, au pire, d'avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Ce serait une réaction naturelle. Parce qu'il y a très peu de personnes qui savent que tout ça, ça existe, qui savent que c'est répandu, et qui savent que ça n'a rien à voir avec la réalité qui, elle, fait frémir, effectivement. Là, j'ai choisi un exemple extrême. C'était voulu, c'était pour montrer, de façon claire, facile à comprendre, quel est le type de réaction dans le pire cas, hein, bien entendu. Vous imaginez bien que si vous parlez de choses du genre « j'aime mettre un bandeau sur les yeux de mon copain ou de ma copine », la réaction sera clairement pas la même. Mais j'ai pris un exemple extrême pour illustrer le problème de fond. Le problème de fond, c'est que la plupart des gens ne comprennent pas tous ces sujets et vont avoir tendance à sauter à des conclusions. Et comme les conclusions, à l'heure actuelle, sont que si vous faites du BDSM, vous êtes un malade mental ou une malade mentale, vous êtes entre guillemets pervers, vous êtes abusif ou abusive, ce genre de choses, ça reste encore hyper répandu, malgré un certain nombre de progrès, mais ils sont très relatifs, hein. Surtout ne vous faites pas d'illusions à ce niveau-là, hein. C'est très relatif. Du coup, le problème, c'est qu'il y a une très 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 forte probabilité que vous soyez face à des personnes qui auront au mieux une conception superficielle du BDSM, tirée typiquement hein, de ce qu'ils ont lu sur internet, vu dans des émissions et des reportages, qui sera pleine d'idées fausses, d'idées reçues, etc., ce qui est naturel, hein, je me répète, c'est parfaitement naturel, je m'attends pas à autre chose. Et le souci, c'est que vous avez aucune idée de ce que la personne en face pense. Comment vous voulez le savoir? Au mieux, vous allez pouvoir faire des sous-entendus, voir si la personne réagit pas trop mal. Si elle réagit pas trop mal, vous allez un peu plus loin, vous parlez un peu de sexe en général, pour voir si la personne réagit bien. Ce qui est pas toujours le cas, hein. Je peux vous dire, j'ai dans le passé eu des expériences comme ça, c'était pas très sympa. Parce qu'il y a des gens qui sont très gênés, hein, par ce genre de sujet. Et ensuite, vous pouvez peut-être voir, ok, la réaction est bonne, parce que la personne, ça lui fait pas peur de parler de sexe. Et là, vous dites, je vais tenter de parler de choses du genre BDSM. Mais le souci, hein, je me répète, le souci c'est que, médecin ou pas, vous êtes face à une personne, et les médecins, c'est des personnes comme les autres, évidemment, ils ont aussi leurs idées reçues, etc., c'est normal, et surtout sur des sujets comme ça où ils n'ont pas fait d'études dessus, ce qui est normal, vous avez donc une probabilité assez importante que leurs idées reçues soient nocives, toxiques, ou extrêmement fortes, brutales, avec du rejet, etc. Vous avez aucun moyen de le savoir à l'avance. Et c'est normal, je vais être bien clair. On peut pas leur demander autre chose, je veux dire, c'est impossible de leur demander par miracle comme ça de tout savoir, d'être éclairé sur le sujet. C'est impossible, on peut pas demander l'impossible. Mais pour vous, si vous voulez consulter, c'est un gros problème, parce que vous ne pouvez pas savoir comment la personne en face réagit. Comment elle va réagir? Peut-être qu'elle réagira très bien pour du sexe normal si vous posez des questions, même si la personne n'est pas sexologue, elle peut sûrement répondre à plein de questions, mais quand on entre dans des sujets qui sont beaucoup moins compris et beaucoup plus tabous, c'est pas la même chose. Le risque, il est très fort d'avoir une mauvaise réaction, ou de tomber sur des idées reçues nocives. Du coup, il y a trois craintes à avoir. La première, c'est, je viens de la sous-entendre plusieurs fois, le jugement de valeur. Et ça, c'est le problème numéro un. La plupart des gens hésitent à en parler à un médecin, et dans les statistiques qui ont été établies dans les années passées, il y a toujours une constante, c'est que la plupart des gens qui font du BDSM n'en parlent jamais à leur médecin traitant. Jamais. Parce que il y a un risque à le faire, et notamment le premier risque, c'est le jugement de valeur, négatif bien entendu, c'est-à-dire on va penser que vous êtes cinglé, que ce que vous faites c'est mal, etc. Le deuxième problème, qui est encore à mon avis beaucoup plus grave, c'est que si vous êtes face à quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment ce genre de sujet et qui a dans la tête l'idée que tout ça c'est abusif, Il y a eu tellement de propagation de l'idée hein, que le BDSM c'est abusif, que les hommes dominants essentiellement, hein, parce que c'est là le plus gros problème, sont forcément abusifs, sont des gros méchants qui abusent de pauvres femmes victimes, ce qui est encore très répandu malheureusement à cette croyance absurde. Vous avez donc le risque qu'on vous accuse d'être quelqu'un d'abusif. Et surtout si vous êtes un homme, hein, évidemment, parce que les préjugés sexistes dans le BDSM sont encore très forts. Je vais revenir à ce problème d'être perçu comme étant abusif dans un instant. Le troisième problème que je vois, qui est extrêmement important, vous l'aurez déjà compris à ce que je viens de dire avant, mais je vais l'expliciter, c'est que vous risquez très fort qu'on vous donne de mauvais conseils. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, et je l'ai répété plusieurs fois, on peut pas attendre que le médecin moyen ait des vraies connaissances sur le BDSM, et même ceux ou celles qui se sont renseignés ont, de façon à peu près certaine, des idées fausses, des mythes en tête. Je l'ai déjà dit 36 fois, mais je le répète, c'est quelque chose que j'attends, c'est pas de leur faute. Je les blâme pas vraiment, puisque c'est, je l'ai déjà dit, impossible de vraiment bien tout comprendre, à part avoir vraiment étudié le sujet à fond pendant des années, et ils vont pas avoir eu le temps de faire ça, évidemment. Du coup, de bonne volonté, hein, bien sûr, avec la meilleure des bonnes fois. La meilleure des bonnes fois, c'est sûr, vous avez une très forte chance qu'on vous recommande ceci et cela. Typiquement, on va vous dire quoi? On va vous dire, ah oui, j'ai entendu parler du mot d'arrêt, j'en ai parlé tout à l'heure. Peut-être qu'en dans la discussion, on va parler du sujet que j'évoquais tout à l'heure, le SSC et le RAC, en vous vendant ça comme étant, ah, il faut absolument que vous étudiez ça pour faire bien le BDSM pour pas que ce soit risqué, etc. Un non-sens total, mais ça, la plupart des gens ne le savent pas. Bref, on va vous vendre un certain nombre de choses qui sont totalement de bonne volonté, c'est clair. Données certainement, hein, avec la meilleure des bonnes fois, la meilleure des bonnes volontés, mais qui sont, pour un grand nombre, pas toutes probablement, qui seront pour un grand nombre fausses et éventuellement nocives, toxiques, et même, dans les pires cas, ça peut vous porter des sournois préjudices. Le cas des mots d'arrêt, c'est un très bon exemple, j'y reviendrai en long, en large, en travers, croyez-moi, mais ce sera pour un autre épisode. Donc ça, ce sont les craintes principales que j'identifie, et que vous avez de fortes chances hein, de rencontrer, c'est presque certain en fait, si vous allez consulter la plupart des médecins. C'est normal, je me répète, je sais que je me répète. Mais ça, c'est pas encore les seuls problèmes. En fait, au-delà de ces craintes, il y a des vrais problèmes de fond que, je pense, la plupart des gens ne perçoivent pas. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'idée d'abus. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore dans l'esprit que le BDSM égale abus. C'est absurde, c'est ridicule, ça a 100 ans de retard, mais c'est encore très présent. Le souci, quand on va consulter un médecin, c'est que vous avez une assez forte chance que la personne en face n'ose pas forcément vous dire ce qu'elle en pense réellement. C'est pas vraiment une surprise, parce que, étant donné que dans la relation médecin-patient, il y a quand même pas mal d'obligations, c'est un tout petit peu difficile pour médecin de vous jeter à la porte en disant « le BDSM ça pue, barre-toi ». J'exagère bien sûr, mais c'est quand même un vrai problème, parce que vous allez vous trouver face à quelqu'un qui peut-être va se sentir vraiment mal à l'aise, parce que il ou elle ne comprend pas de quoi on parle et donc a des idées fausses horribles dans la tête, imagine que vous êtes un bourreau d'enfant, ou que vous martyrisez votre femme, etc. Toujours dans le même sens, entre parenthèses. Mais c'est un peu délicat de vous le dire un peu trop directement, c'est pas trop déontologique, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? La plupart des personnes qui se sentiront plutôt mal à l'aise avec le sujet vont pas trop oser le dire, parce que ce serait pas professionnel. Ça se comprend, hein, qu'il y ait une hésitation, c'est normal. Le souci, c'est que vous le savez pas. Et quand vous sortez, vous avez peut-être l'impression que la personne a bien réagi, mais qu'est-ce que vous en savez? Rien. À part si vraiment vous avez eu affaire à quelqu'un qui vous a prouvé qu'il ou elle connaît le sujet, qui vous a donné des vrais bons conseils, vous avez aucune idée de si la personne, elle a en elle-même bien pris ce que vous avez dit ou pas. Peut-être qu'elle a gardé dans la tête, quoi? L'idée que vous êtes quelqu'un qui est abusif. L'idée que, oui, vous voulez vraiment aller violer des gens. Et évidemment, le souci, c'est que vous ne le savez pas, donc vous pouvez pas vous défendre en expliquant « Non, non, vous m'avez mal compris, ce que je voulais dire, c'était ci et ça ». Je me répète, mais les médecins, c'est des personnes comme les autres. C'est normal qu'ils aient aussi des idées fausses, des raccourcis, des mauvaises conceptions, etc. Quand on parle de sujets dont certains sont vraiment très tabous, voire extrêmes dans le cas que j'ai pris, qui était un petit peu exagéré, parce que je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui va vouloir parler de ce sujet, mais le sujet des fantasmes de viol, c'est vraiment le sujet où je dirais « Ne prenez surtout pas le risque d'aller en parler comme ça, à moins d'avoir vraiment, vraiment mesuré le pour le contre très longtemps, et particulièrement pas avec votre généraliste ou votre médecin de famille, parce que là, la probabilité que ça se passe mal est vraiment trop forte. Et maintenant, quel est le souci alors? Imaginez les prochaines fois que vous irez voir votre médecin de famille. La personne, de façon naturelle, humaine, aura en tête toutes ces idées-là. Il ou elle va se dire, ah oui, c'est où cette personne qui avait des idées bizarres, peut-être qu'elle pensera bien pire que ça, hein, que vous êtes, entre guillemets, un malade mental, que vous torturez vos enfants, votre femme, vos animaux de compagnie, etc. Toutes choses qui sont aberrantes, on est bien d'accord, hein, mais qui sont pas vraiment surprenantes, étant donné tous les mythes, les tabous sur BDSM. Maintenant, imaginez un petit peu les discussions futures avec quelqu'un qui a en tête, qui osera pas le dire probablement par professionnalisme, la déontologie, tout ça, mais qui gardera quand même dans l'idée que vous êtes quelqu'un de mauvais, de dangereux, de cinglé, entre guillemets, etc. Comment vous voulez ensuite avoir une conversation sereine et saine avec quelqu'un qui pense ça? Et vous avez aucune idée de si la personne, elle va garder ça en tête. Parce que c'est délicat de vous le dire, donc ils vous le diront pas. C'est normal, c'est humain. Et ça, c'est à mon avis le plus gros problème, parce que autant je peux pas faire reproche aux personnes de ne pas être au courant de tout ça, puisque je l'ai déjà dit mille fois, c'est impossible d'attendre qu'ils soient vraiment formés à ça, ce serait déraisonnable. Le gros problème, c'est quand vous êtes face à quelqu'un qui gardera de mauvaises idées, mais vous, vous le savez pas. Et après, je vous laisse imaginer les conséquences. Et là encore, j'ai simplifié, mais imaginez quand vous êtes en train de voir votre médecin de famille. Donc, par exemple, vous êtes dans le cas typique où vous êtes en couple avec des enfants. Vous imaginez un petit peu les conséquences que ça peut avoir? Si vous êtes un homme, peu importe ce que vous faites, dès qu'il y a l'idée de BDSM, il y a l'idée que vous êtes un homme dominant qui fouette sa femme soumise. Peu importe que vous fassiez pas ça, vous pouvez faire totalement autre chose. Ni l'un ni l'autre ne faire du fouet, du ESM, rien de tout ça, vous pouvez faire totalement autre chose. Dans l'esprit de beaucoup de gens, ça va être ça, l'idée reçue. Ça va être un homme qui attache sa femme et qui la frappe de toutes les façons possibles. Peu importe que ce soit totalement faux, c'est l'idée qui va s'imposer à beaucoup de personnes. Ce qui n'est pas du tout surprenant, vu les préjugés actuels sur BDSM. Maintenant, imaginez quand vous avez votre femme, par exemple, qui va consulter de son côté. Imaginez quand vous êtes en famille. Imaginez avec vos enfants, parce que il y a beaucoup d'accusations, c'est un des thèmes favoris, hein, des ennemis du BDSM, beaucoup d'accusations que si vous faites du BDSM, ça veut dire que vous battez vos enfants. Ça n'a rien à voir, c'est aberrant, mais c'est un argument hypocrite qui est très souvent utilisé, et beaucoup de personnes y croient. Imaginez un petit peu la situation. Tout ça, c'est faux. Vous, vous le savez que c'est totalement faux, mais vous êtes face à quelqu'un qui va s'imaginer, qui va peut-être délirer sur ce qui se passe en réalité dans votre famille. Et si jamais vous allez ensuite consulter et que vous avez une des personnes qui a des bleus, par exemple, je vous laisse imaginer les conséquences. Je voudrais vous rappeler quand même une anecdote. Ça s'est passé aux USA, mais c'était pas directement avec des médecins, c'était avec les services sociaux. Il y a eu des gens qui se sont fait retirer leurs enfants parce que ça s'est su qu'ils faisaient du BDSM. Il y a eu des idées donc stupides, délirantes, folles, qu'ils allaient abuser de leurs enfants parce qu'ils faisaient du BDSM, et on leur a retiré de force donc leurs enfants. Ça fait tout un scandale, mais il y a eu plusieurs histoires comme ça. J'en connais une en particulier, celle que je viens de raconter, mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu pas mal de problèmes comme ça. C'est pas anodin de dire comme ça qu'on fait du BDSM. Bien sûr, je veux pas dire que le médecin, il va aller clamer que vous faites ça à tous les gens autour de lui. Évidemment non, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, c'est pas anodin, et après, les gens gardent des idées extrêmement toxiques, potentiellement en tout cas, et ça peut avoir plein de conséquences. Imaginez la situation où le médecin est persuadé, totalement à tort, que si vous faites du BDSM, ça veut dire que vous abusez vos enfants. Il va se sentir, ou elle va se sentir, obligée de faire quelque chose peut-être. Ça peut être extrêmement violent. Je voudrais revenir sur un autre point. Pendant que je réfléchissais à cet épisode, j'ai fait un certain nombre de recherches. J'ai notamment fait des recherches sur les obligations légales, déontologiques des médecins quand il y a perception qu'il y a des abus sur les enfants ou bien sur une personne, par exemple un partenaire dans un couple, ce genre de choses. Une des choses que j'ai vues qui m'a frappé et que je connaissais déjà, c'est que dans un des articles, plusieurs en fait, mais j'ai vu spécialement dans un article marqué, ne pas oublier que rien n'étonne un médecin. Et évidemment, il y avait aussi le secret professionnel, mais ça, je vais pas en parler, c'est pas le sujet. Le problème, c'est que si, il y a plein de choses qui étonnent un médecin. Quand on dit ça, on parle bien entendu des choses que, pour une personne qui est le patient ou la patiente, sont gênantes. Par exemple, vous avez un gros bouton, un endroit un peu délicat, vous voyez, par exemple, à côté des organes génitaux, c'est un peu délicat de montrer, d'en parler au médecin, etc., même si c'est absurde en réalité. Et donc le médecin, lui, ou il ou elle, a tout vu, entre guillemets, et n'est pas du tout étonné quand vous lui montrez que, oui, vous avez une pustule là, bon, bah ok, c'est juste ça, et ensuite on vous donne des médicaments, etc. Bien sûr, dans ces genres de situations, on peut le dire que le médecin a tout vu et que rien ne peut l'étonner, bien sûr. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. C'est une grosse erreur de penser que ce genre de choses, ce soit vrai pour des choses qui sont hors de l'expérience, hors du domaine professionnel, bien sûr, ça c'est normal, mais même hors de l'expérience personnelle de quelqu'un. Je l'ai déjà dit 36 fois, on peut pas s'attendre à ce que ces choses-là soient connues par une personne moyenne. Même quelqu'un qui est dans les professions médicales, même chez les sexologues, je vais en parler tout de suite. Donc oui, ça va étonner les personnes, et oui, ça peut les gêner. C'est pas parce que les choses qui tombent dans le milieu médical habituellement ne sont pas étonnantes, que des choses qui en sont en dehors ne le seront pas. Au contraire, ce sont des choses qui sont peu évoquées, des sujets qui seront assez rarement abordés par les patients et patientes. J'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens en parlent jamais. Donc oui, une personne normale va être étonnée, c'est normal, c'est humain, on peut pas leur reprocher. Donc moi, quand j'ai vu cet article qui disait ça, je suis tombé par terre quasiment, je me suis dit « mais non, c'est n'importe quoi de dire ça, c'est extrêmement dangereux de présenter les choses sous cet angle-là ». Parce que là, la personne qui dit ça, elle a en tête des choses classiques qui sont rencontrées régulièrement. On parle pas de choses super taboues, super délicates, même sans tomber dans les trucs les plus tabous, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, le CNC, tout ça. Et puis, de façon naturelle aussi, dans le lot, vous avez des personnes qui auront de relatifs ou importants problèmes avec le sexe, parce que il y a des gens qui ont des visions très spécifiques, très étroites de la sexualité, de comment ça doit se passer, etc., qui ont du mal avec ce genre de sujet, qui se comprend, hein, chacun ses idées. Et quand on parle de choses aussi, entre guillemets, extrêmes que le BDSM, même si ça n'a pas de sens, hein, c'est la vision qu'ont les gens, hein, je veux dire, que c'est extrême. Forcément, si vous êtes face à quelqu'un qui a un petit peu des difficultés avec le sexe qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, ça va être violent, évidemment. Pour cette personne-là, ça va être très dur à accepter. Ça se comprend. De son point de vue, ça se comprend. Et là, je voudrais aborder un dernier point, avant, dans la partie suivante, d'un tout petit peu essayer de séparer les différents types de médecins pour discuter un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre en fonction de la spécialité du médecin? Il y a une autre chose que je voudrais expliciter, mais je l'ai déjà dite implicitement dans toute cette partie, c'est que un des grands problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est que vous risquez d'avoir la personne qui, pour des raisons professionnelles et déontologiques, n'ose pas vraiment vous dire que ça la dérange, hein, ça se comprend, a des préjugés, des idées fausses, etc. Et le grand risque, c'est que vous allez tomber sur ce que j'appelle la fausse bienveillance. C'est le sujet que j'ai abordé dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, j'expliquais pourquoi beaucoup de personnes ne comprennent pas trop le BDSM, ne savent pas trop ce que c'est, éventuellement sont un peu contre mais n'osent pas le dire pour plein de raisons. Je parle en général, hein. Et du coup, vous avez des discours du genre « tant que c'est entre adultes consentants, trois petits points ». C'est-à-dire « je me mouille pas, je dis pas grand-chose, je dis « c'est leurs affaires, voilà ». En apparence, c'est quelque chose de positif. Malheureusement, comme je l'ai expliqué très en détail dans l'épisode précédent, c'est un gros piège. C'est un gros piège parce que pour pas mal de personnes, en fait, ça va être utilisé soit pour éviter de dire que, en fait, on connaît pas, ça va être parce que on pense qu'à l'heure actuelle, le BDSM, on en parle beaucoup, c'est plus ou moins socialement ok de dire que en faire est pas si grave, ou bien ça va être pour montrer je suis ouvert d'esprit ou ouverte d'esprit. Peu importe que derrière on sache même pas ce que ça veut dire BDSM, c'est pas grave. Et donc vous avez beaucoup de personnes qui ont ces types d'attitudes. Ça va pas forcément être hein, la phrase « tant que c'est entre adultes consentants », mais vous aurez quelque chose dans ce goût-là. Et ça, je vous parie que si vous allez voir un médecin, vous allez avoir ce genre de discours. C'est ce que je viens d'exprimer, en fait, dans cette partie 2, c'est que même si les personnes comprennent pas trop, c'est quand même délicat de vous dire « non, c'est mal, faut que vous arrêtiez », parce que c'est pas leur rôle, évidemment, hein, de dire ça. Donc on va probablement vous sortir une phrase bien bateau de ce genre-là, c'est que tant que c'est entre adultes, c'est-à-dire typiquement avec votre partenaire, que vous êtes consentant, j'ai discuté en long en détail tous les problèmes que pose cette expression dans l'épisode précédent, hein, si vous voulez le détail, il y a plus d'une demi-heure de discussion. Le souci, c'est que quand on vous dit ça, vous savez pas ce que pense vraiment la personne. Ce qui est normal, à part si vous lui demandez exactement, pour lui tirer les vers du nez, qu'est-ce que tu penses vraiment, dis-moi ce que tu as vraiment dans la tête, à part ça, vous aurez quelque chose d'un peu bateau. Ce qui est assez normal, surtout que quelqu'un qui connaît pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous réponde? Donc la personne, de façon assez naturelle, va vouloir ménager la chèvre et le chou en vous disant un truc un peu bateau, parce que elle a pas spécialement grand-chose de plus à dire, ce qui se comprend de toute façon. Mais l'ennui, c'est que vous savez pas si la personne est vraiment plus ou moins positive ou au moins neutre sur le BDSM, ou si elle dit ça parce qu'elle se sent un peu gênée, mais que ce serait pas professionnel de vous faire des remarques. Donc une phrase bateau qui est connue, archi connue, hein, parce qu'on la voit passer de plus en plus, cette phrase bien bateau, mais cette phrase, en apparence, elle est positive, en apparence, ça vous donne l'impression que on vous donne une approbation, que la personne est ok, plus ou moins, mais vous avez aucune idée si derrière, en réalité, la personne en question, elle a pas d'énormes idées fausses, éventuellement qu'elle a pas des peurs, etc., sur le BDSM. Et ça, c'est un gros problème, parce que vous, on vous donne l'illusion que, ok, ça va, la discussion s'est bien passée, merci, au revoir, mais qu'est-ce qui va se passer à la prochaine visite? Vous n'avez aucune idée, naturellement, si votre médecin, c'était vraiment ce qu'il ou elle pensait, ou s'il s'était senti au moins gêné ou pire. Ce genre d'expression, il y en a un certain nombre d'autres, mais elles vont à peu près toutes dans le même sens, et elles font partie d'un spectre de problèmes que j'appelle la fausse bienveillance, mais c'est un sujet assez large qui fera probablement l'objet d'autres épisodes, d'articles sur mon site, etc. Je vais pas entrer trop dans le détail. Mais le problème, c'est que j'avais intitulé mon épisode 68 « Le piège », parce que c'est un piège. C'est vraiment un piège, ça peut vous donner l'impression que c'est ok alors que ça l'est pas. Quand c'est avec vos voisins, des gens que vous avez croisés comme ça, lors d'une réunion impromptue, c'est pas très grave. Quand c'est avec le médecin de famille, la personne que vous allez voir de temps en temps, peut-être assez régulièrement pour tel ou tel problème, notamment avec vos enfants par exemple, si vous avez des enfants, c'est beaucoup plus problématique si la personne a gardé de mauvaises idées, des notions fausses, des mythes, etc. C'est difficile de demander à quelqu'un de rester neutre si on lui dit que « Ah, je fais du BDSM », ce que elle, dans la tête, elle traduit par « Je bats ma femme et mes enfants », puisque c'est toujours dans la direction comme ça, hein, évidemment, malheureusement. De façon compréhensible, c'est un tout petit peu difficile ensuite de demander à cette personne de rester neutre, objective, professionnelle, quand elle a dans la tête des idées comme ça. Ça se comprend, hein, bien sûr. C'est un gros problème, c'est un problème de communication, fondamentalement. Mais c'est pas un problème aisé à résoudre. Parce que même si vous expliquez, et ça c'est toujours un gros souci, même si vous expliquez que non, le BDSM c'est pas de l'abus, etc., parce que vous connaissez peut-être le problème, donc quand on connaît un tout petit peu le souci, la première chose qu'on fait c'est d'expliquer, avant toute chose, les histoires de consentement, etc., que c'est pas abusif, bref, on insiste lourdement. Mais ça veut pas dire pour autant que la personne en face sera réceptive. Et la communication, c'est difficile. Et quand on parle de sujets délicats, c'est très difficile. Même si en face, vous avez quelqu'un de bonne foi, de bonne volonté. C'est très difficile de faire passer. J'ai vraiment d'expérience sur ce genre de choses. Hein. Je vois dans mes articles, dans ce que je lis, dans ce que j'entends, c'est super dur de faire passer les choses. Donc même si vous tombez sur quelqu'un qui a l'air relativement réceptif ou réceptive, qui vous, entre guillemets, encourage en vous disant des banalités, parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, faut reconnaître, c'est un problème, c'est un gros problème. Je pense que c'est particulièrement un problème aigu si vous voulez en parler à votre médecin traitant, votre médecin de famille. Je pense que c'est beaucoup plus grave si c'est le médecin de famille, c'est-à-dire que vous avez votre partenaire, éventuellement vos enfants, qui consultent le même médecin. Je pense vraiment, surtout pour le médecin de famille, que c'est extrêmement, extrêmement risqué et peut-être même dangereux dans une certaine mesure, c'est-à-dire que ça peut avoir des conséquences de long terme, sournoises. Même si, en apparence, vous pensez avoir une bonne relation, vous pensez que la personne est ouverte au sexe, etc. J'ai vu personnellement des gens qui étaient très ouverts sur le sujet du sexe et qui entraient en pleine panique quand on parlait de choses du genre BDSM. Donc on peut pas savoir comment les gens réagissent, on peut pas savoir ce qu'ils pensent vraiment. Du coup, pour moi, c'est quelque chose que je déconseillerais fortement, surtout d'aller en parler donc au médecin traitant, au médecin de famille, surtout si c'est un médecin de famille. Si vous voulez consulter un médecin pour parler de ce genre de choses, ce qui a totalement du sens, il faut vraiment sélectionner quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aura pas une incidence ensuite que vous pouvez ne pas retourner voir s'il le faut, ou qui ne vous traite pas pour d'autres problèmes, comme ça on évite de mélanger les choses, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura pas du coup de préjugés dans la tête éventuels, hein, qui pourraient être négatifs et qui pourraient avoir une incidence, parce que même si on est hyper professionnel, franchement, si on imagine être face à des gens qui sont des violeurs, des abuseurs, etc., c'est un tout petit peu difficile de totalement rester professionnel, évidemment. Donc moi je recommanderais vraiment ça, je recommanderais vraiment d'aller voir une autre personne, éventuellement d'autres types de médecins, je vais en parler tout de suite, mais surtout pas la personne qu'on va voir pour le rhume, éventuellement même les vaccinations des enfants, ou toutes les choses classiques comme ça de la vie de tous les jours. Si vous me posez la question, est-ce que moi j'irai en parler? La réponse est, je l'ai déjà fait une fois, mais je n'ai fait que survoler le sujet comme ça, et de toute façon, je suis dans un cas particulier. D'abord, je suis à fond dans le BDSM, ensuite je sais exactement ce qu'il faut dire, etc., s'il faut se défendre et tout, et surtout se défendre proactivement, parce que je connais bien la musique, croyez-moi. Personnellement, jamais je ne prendrai le risque d'en parler à un médecin que j'irai voir avec une partenaire, et surtout, si j'avais des enfants, jamais je prendrai le risque, jamais. J'irai voir quelqu'un d'autre, j'irai soit seul, soit avec une partenaire, mais j'irai vraiment voir une tierce personne, quelqu'un que je consulterai uniquement pour ce genre de sujet. Parce que les risques sont beaucoup trop grands, ça n'en vaut pas la chandelle. Alors après, ça peut poser des problèmes, hein. Ça peut poser des problèmes éventuellement de paperasserie, de remboursement, etc. Je suis conscient de ça. Mais le risque est beaucoup trop élevé, franchement, personnellement, après des nombreuses décades d'expérience du BDSM, et en voyant tout ce que j'ai vu depuis que je me renseigne vraiment à fond sur BDSM, malgré une amélioration récente de la visibilité du BDSM, et dans une certaine mesure, une montée de son acceptation très relative, jamais je prendrai le risque. Il existe des initiatives, notamment aux USA, de faire des listes de médecins qui sont kink positives, comme on dit, c'est-à-dire de personnes qui savent exactement de quoi ils retournent et qui au moins ne vous jugeront pas, ne diront pas que vous êtes un abuseur. Je dis un abuseur parce que c'est toujours dans la même direction, bien sûr. Ne croiront pas que vous tabassez vos enfants ou vos animaux de compagnie. L'ennui, c'est que c'est rare, ce genre de choses. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui veulent mettre leur nom dessus. Et puis, quand on est médecin, c'est un petit peu délicat de mettre sur sa pancarte « On accepte les clients qui font du BDSM ». Parce que c'est bien pour les gens qui font du BDSM, mais pour les autres, ils vont se dire « Oula, qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Donc ça peut un peu faire une pub négative, donc je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup qui le présenteront sous cette forme, mais ça existe. En France, on en trouve qui le disent plus ou moins explicitement. Il y en a sur YouTube, par exemple, qui disent « Oui, je fais des consultations, notamment de personnes qui font du BDSM ». Cela dit, ce sont rarement des généralistes. Je crois même que dans les exemples que je connais, il n'y a pas de généralistes du tout. Ce sont des sexologues, et je crois avoir vu passer un ou deux psys, mais je suis même pas sûr. Je suis sûr pour des sexologues. Donc là, je viens de vous dire ce que je pensais de l'idée d'aller consulter un généraliste et le médecin de famille, mais il existe d'autres types de médecins, bien sûr. Je vais en parler dans la partie suivante. Troisième partie, qu'en est-il des autres types de médecins ? Je pense que mes arguments pour vous dire que c'est quand même très risqué d'aller en parler à votre généraliste, au médecin de famille, c'est vraiment, vraiment risqué. Mais il n'y a pas que ça comme type de médecin, bien entendu, et donc vous allez vous poser la question. Très bien, je comprends pourquoi ça n'a pas trop de sens d'en parler à quelqu'un qui, après tout, n'est pas expert ou experte. Hein. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas aller consulter les gens qui savent ? Et les gens qui savent, il y en a deux types, typiquement. Il y a évidemment les sexologues, je vais en parler tout de suite. Et ensuite, vous avez tout ce qui est psy. Alors, quand je dis psy, je veux dire psychologue, psychiatrice, psychanalyste, etc. Où là, l'idée est plus quand vous avez des problèmes de réflexion sur votre sexualité, votre relation de couple. C'est plus juste au niveau du BDSM, ça peut aller un peu au-delà. Mais vous voyez le genre de questions un petit peu différentes que celles que vous pourriez poser au sexologue ou à la sexologue. Alors pour ce qui est des psys, au sens large, toutes les catégories de médecins qui tournent autour de ce genre de choses, personnellement je dirais de faire très attention. Le problème c'est qu'en général ces personnes n'ont pas non plus étudié, c'est un peu le même problème que le médecin généraliste. Hein. C'est exactement le même problème, ces personnes n'ont pas étudié le sujet de façon intense, ou pour les rares qui l'auront fait, de toute façon ils et elles seront tombés dans tous les mythes, etc. Et malheureusement l'expérience montre que tout ce qui est études de type psy, notamment la psychiatrie et la psychanalyse, toutes ces études, toutes celles que j'ai vues passer, et j'ai passé beaucoup de temps à étudier ce sujet-là, tombent toutes dans les problèmes d'idées fausses, d'idées reçues, d'idées bizarres sur le BDSM. Du coup, j'en suis arrivé à la conclusion que c'était en fait carrément quelque chose que je vais déconseiller pour le pur BDSM. Si on veut parler de relations, de choses comme ça, c'est une chose, mais parler de BDSM, tout ce que j'ai vu passer, les études, les connaissances qui sont propagées dans ces milieux-là, sont toutes plus ou moins gravement toxiques. Donc vraiment, vraiment, je conseille pas d'aller en parler à des personnes comme ça. Parce que vous risquez très fort qu'on vous renvoie au visage tout un tas d'idées fausses. Je me répète, hein, de bonne foi, de bonne volonté, j'en suis absolument sûr. Mais la bonne foi et la bonne volonté, ça suffit pas quand on propage des idées qui sont fausses. Et ça, c'est un très gros problème. Du coup, qui reste-t-il ? Les sexologues. Vous vous doutiez probablement que j'allais en arriver là, et c'est logique. Qui a étudié la sexualité de façon spécifique, détaillée, dans la profession médicale ? C'est forcément les personnes qui ont fait des études de sexologie. C'est normal. Donc ce sont chez ces personnes-là qu'on devrait pouvoir s'attendre à trouver la plus grande connaissance et le moins d'idées reçues, etc. Mais tout ça, faut drôlement relativiser, vous pouvez me croire. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, même quand on est sexologue, il n'y a pas beaucoup d'études qui sont sérieuses. Donc même si on passe du temps, si on essaie de se spécialiser, ce qui est assez rare, parce que pour vous donner une idée, hein, j'ai lu pas mal de témoignages qui étaient pas super récents, j'avoue, dans lesquels ils disaient clairement, des anciens élèves disaient, il y avait quasiment rien sur le BDSM, sur le kink, qui est un surensemble du BDSM, c'était minimal. Minimal parce qu'il n'y a pas encore trop d'études, etc. Parce que les profs aussi n'ont pas encore trop eu le temps de se former, ce qui se comprend. C'est pas de leur faute, ça se comprend. Et du coup, ils disaient que c'était vraiment la portion congrue. Et donc, forcément, les élèves n'ont pas tellement de connaissances sur ces sujets-là. Parce que ça fait pas très longtemps qu'ils sont étudiés de façon un peu plus intense et ouverte. Ça fait longtemps que c'est étudié, mais ça fait pas si longtemps que c'est de façon ouverte. Du coup, en réalité, et de façon très décevante, vous n'êtes pas du tout sûr hein, de tomber sur des personnes qui ont vraiment des connaissances. Et malheureusement, de ce que j'ai vu, et j'ai vu pas mal de vidéos, etc., j'ai vu des études et tout, et les personnes qui sont sexologues, elles ont aussi hein, pas mal d'idées fausses et d'idées reçues. Alors, il y en a quand même un peu moins, au moins vous aurez une presque certitude de tomber sur des personnes qui ne penseront pas des choses du genre que vous êtes malade mental, que vous tabassez votre copain, votre copine, votre femme, vos enfants, vos animaux de compagnie. Ça, au moins, il y a à peu près zéro chance qu'ils le pensent, c'est déjà un gros gain. Par contre, si vous avez des questions orientées BDSM, des questions sécurité, des questions de comment il faut faire ceci et cela, malheureusement, je serais assez prudent et très mitigé, hein, franchement. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, par exemple, j'ai vu passer pas mal de vidéos sur YouTube venant justement de sexologues, et qu'est-ce que je peux dire de plus que dire qu'ils disaient n'importe quoi ? Il y avait exactement le problème que j'ai décrit en début de cet épisode, c'est que ils avaient en tête plein d'idées reçues, d'idées fausses sur BDSM. Ils avaient quand même, je viens de le dire, certaines idées fausses particulièrement nocives qui étaient éliminées, heureusement. Mais ils avaient encore énormément d'idées bizarres et malheureusement qui sont nocives et qui sont toxiques. Et c'est le genre de personne qui va vous sortir en toute bonne volonté, je me répète, en voulant être bienveillant, etc. Ils vont vous dire, il faut faire attention à ceci, cela. Donc ils vont vous faire un grand discours sur le consentement de façon ultra simpliste sans comprendre tous les problèmes, sur le mot d'arrêt sans comprendre les problèmes, sur le éventuellement le SSRAC sans comprendre les problèmes, sur ceci, cela sans comprendre les problèmes, ou bien vont vous sortir des idées reçues totalement bizarre, qu'ils ont pour des raisons évidentes, hein, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'études fiables, donc on peut pas leur demander d'inventer des études fiables, et c'est un gros problème. Du coup, bonne volonté ou pas, il y a beaucoup de problèmes. Vous pourrez certainement avoir plein de réponses sur des sujets de base, mais même pour ça, je serais méfiant, parce que malheureusement, dans les sujets de base, vous avez des choses du genre, ce que je viens de dire à l'instant, les mots d'arrêt, ce genre de choses, et on va vous les sortir à coup sûr. C'est presque impossible qu'on vous sorte pas, si vous posez des questions comme ça, un peu des questions qu'on pose au début, hein. C'est presque impossible qu'on vous sorte pas des discours sur ce genre de choses, des trucs très simplistes sur le consentement, etc., et malheureusement, c'est nocif. Et vous, vous vous en apercevrez pas. Si vous n'avez pas vraiment beaucoup de recul sur le BDSM, et je rappelle, hein, même moi j'avais des idées fausses, hein, sur le BDSM, il y a encore quelques années j'en avais encore. C'est en faisant mon site, en creusant vraiment beaucoup plus pour les articles de mon site, que j'ai déblayé certaines idées fausses qui me restaient. Donc si vous n'avez pas vraiment passé vraiment du temps à étudier le sujet, à réfléchir, à essayer de prendre du recul explicitement, vous avez forcément des idées fausses sur le BDSM, c'est normal, c'est parfaitement normal, ça fait des années que je le dis, c'est impossible d'y échapper, même moi j'en avais il y a pas si longtemps encore, donc vous n'allez pas identifier les endroits où la personne va vous dire des choses qui sont fausses, et malheureusement, dans le lot, il y en aura qui seront probablement nocives, subtilement toxiques, ou très toxiques. Vous allez avoir presque à coup sûr des recommandations du style comment faire des rencontres, qu'il faut aller dans les événements, tout un tas de choses comme ça, et malheureusement, tout ça, c'est faux, c'est toxique, et vous vous rendrez pas compte que ça vous porte un préjudice plus ou moins grave. Pas forcément dramatique, hein. Je veux pas dire que vous allez avoir un accident ou quoi que ce soit, hein. Mais je veux dire qu'il y aura à coup sûr dans ce que vous diront les personnes, des choses qui sont pas correctes et qui seront au minimum une gêne, un handicap dans votre découverte du BDSM. C'est impossible que ce soit autrement, soyons bien clairs, je suis catégorique, c'est impossible que ce soit autrement, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de compréhension du BDSM. Qu'il faut vraiment, vraiment s'attacher à prendre du recul, à regarder partout, et même comme ça, ça veut pas dire qu'on comprenne tout. Je prétends pas tout connaître. Je connais pas mal de choses, et pour les bases, je sais de quoi je parle, mais je peux pas prétendre tout connaître, il y a beaucoup de sujets où je saurais pas répondre à vos questions. Si vous me disiez exactement de vous présenter les risques de telle ou telle pratique, il y a des chances que je vous dise, écoutez, je sais pas, et je saurais probablement pas vous renvoyer vers quelqu'un qui sache, ou une documentation qui réponde à la question. Donc, pour un bon nombre de choses, on peut se débrouiller avec son bon sens, hein, en utilisant un tout petit peu son cerveau, son bon sens, comme je dis toujours, son esprit rationnel. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont connues, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses qui sont pas claires, qui sont pas connues, qui sont des grandes inconnues. Encore maintenant, de nos jours, on a beaucoup de grandes inconnues. Et c'est impossible d'aller demander à quelqu'un de répondre à des questions sur lesquelles il n'y a pas de réponse connue. On peut pas leur demander l'impossible, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, même pour les médecins généralistes. Donc pour moi, si vous voulez pouvoir en parler au moins sereinement, la meilleure solution, c'est effectivement d'aller voir des sexologues, mais je mets un énorme mais, il faut faire très attention à ce qu'on vous dit, et surtout, ne pas croire que, même si c'est dit d'un ton positif, bienveillant, en voulant vous aider, etc., faut pas croire que la personne ne dit pas des choses qui sont fausses, éventuellement nocives, ou contre-productives, tout simplement, parce que c'est, pour moi, impossible. C'est trop demandé. C'est pas de leur faute, hein, je veux être bien clair. C'est pas de leur faute, c'est trop demandé. Du coup, je pense quand même que c'est positif, mais faut prendre des pincettes, faut vraiment se méfier et ne pas prendre tout ce qu'on vous dira comme étant évident, comme étant acquis, comme étant une certitude. Franchement, même si c'est quelqu'un qui connaît vraiment la musique, qui connaît ça, qui a étudié le BDSM spécifiquement, ce qui existe, hein, bien sûr, personnellement, je ferai très attention à ne pas tout prendre au pied de la lettre. Je sais que je me répète, mais je vous garantis, je suis certain à 100% que vous tomberez sur des personnes qui, forcément, à un moment ou à l'autre, vous sortiront des idées reçues, des idées fausses, des mythes du BDSM, le folklore nocif du BDSM, en vous disant que c'est comme ça dans le BDSM, alors que c'est faux. Mais pour ça, faut vraiment prendre du recul, et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens de le faire, et de toute façon, personne ne peut totalement prendre du recul et savoir répondre à tout. Je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai déjà dit depuis des années, moi je ne le prétends pas, je prétends pas tout savoir, et vu le temps que j'ai passé sur le sujet, je me suis aperçu que faut pas s'attendre à ce que d'autres personnes fassent mieux. C'est déraisonnable, on peut pas demander quelque chose de déraisonnable comme ça. Vous pouvez aller voir des sexologues, poser des questions, ça peut vous aider, mais gardez vraiment une grande méfiance parce que, je me répète, c'est pas parce que la personne est spécialiste de la sexualité que ça la rend spécialiste du BDSM, ou alors ça la rendra spécialiste des mythes tels qu'ils sont conçus dans les études du BDSM, ce qui va pas vraiment vous aider, hein, franchement. N'hésitez pas pour autant à les consulter si c'est pour vous aider au moins à des choses du genre démythifier le BDSM, c'est-à-dire vous rassurer en vous disant « mais non, ce sont pas des gens qui sont cinglés, c'est pas de l'abus, etc. » Pour ça, ça sera probablement une aide, et si vous avez des soucis à ce niveau-là, des peurs, des hésitations, parfaitement compréhensibles, là, ça vous aidera vraiment. Si vous voulez des questions plus précises sur des pratiques BDSM, sur comment ça se passe dans le BDSM, sur les événements, etc., franchement, soyez super hyper méfiants et méfiantes, hein, parce que là, vous aurez, de façon naturelle, pas mal de réponses qui seront pas correctes, et ça peut être très gênant. Comme je le dis toujours, faut pas croire tout ce qu'on vous dit, faut vraiment toujours continuer à utiliser votre cerveau, votre bon sens, votre esprit critique, et là, faut être encore plus aiguisé, parce que vous êtes face à quelqu'un qui, en apparence, connaît tout ça beaucoup mieux que vous, mais ça veut pas dire qu'elles sont correctes. Donc, prudence. Voilà mon conseil majeur, prudence. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, prenez votre temps, vérifiez, prenez du recul. Méfiez-vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, même si ça vient de la part de gens qui sont professionnels. Ils ont pas forcément raison. Un jour peut-être, ils auront raison, mais c'est pas aujourd'hui, croyez-moi, malheureusement. L'ignorance du BDSM, c'est ce qui domine, hein. C'est pas la connaissance qui domine, c'est l'ignorance, malheureusement. J'espère vous avoir montré dans les parties précédentes pourquoi, à mon avis donc, c'est vraiment, vraiment une mauvaise idée de tenter d'aller voir votre médecin traitant, votre médecin de famille, que si vraiment vous voulez en parler, il faut aller parler à quelqu'un d'autre avec qui vous n'avez pas une relation médicale sur d'autres sujets, ça évitera de mélanger les choses. Et si vraiment vous voulez en parler, je viens de le dire à l'instant, le mieux, si vous voulez vous rassurer, surtout si vous êtes dans la situation où moi j'étais étant jeune, mais à cette époque-là c'était inimaginable d'aller chercher de l'aide, où vous avez des doutes, des peurs, des hésitations, des craintes du genre « est-ce que on n'est pas des monstres de vouloir faire du BDSM ?» ce genre d'idée, là on pourra vraiment vous aider. Si vous allez vraiment pour ce genre de choses, là oui, ça vous aidera, c'est sûr. Maintenant, vous me direz, il suffisait d'écouter mes épisodes de podcast pour vous dire tout ça, mais ça peut être bien quand même d'aller discuter avec une personne en chair et en os. C'est quand même pas la même chose, et comme ça, vous pouvez parler de votre cas particulier. Par contre, dès que vous voulez aller au-delà de ça, et même dans des généralités, hein, je viens de le dire, franchement, méfiez-vous. Je me répète une dernière fois, je suis convaincu que on vous donnera des informations, des renseignements, etc. avec la meilleure des bonnes fois, la plupart du temps avec de la très bonne volonté, avec de la bienveillance entre guillemets, j'en suis convaincu de ça. Hein. C'est pas pour autant que les personnes, elles ont raison dans ce qu'elles disent. Tant qu'on n'aura pas des études vraiment sérieuses et plus vastes sur le BDSM, on ne pourra pas attendre des réponses sérieuses de la part du milieu médical. C'est impossible. Donc les sexologues seront les moins mal lotis pour vous répondre, mais même eux et elles ne pourront pas répondre à tout. Et surtout, beaucoup plus gênant, vous répondront parfois, je me répète, de bonne volonté, en vous propageant les habituels mythes plus ou moins nocifs et toxiques du BDSM, le folklore toxique. Et c'est pas demain que on aura un changement à ce niveau-là, parce que les progrès sont très lents, pour plein de raisons, mais je vais pas entrer dans les détails. Donc ma réponse à la question, le titre de l'épisode, c'est non, il faut pas aller consulter son médecin traitant, ça c'est sûr. Et si vous voulez vraiment en consulter, allez en voir d'autres, et surtout pas le médecin de famille. Cela dit, en passant, je fais ma propre pub. Après tout, moi, j'écris des milliers de pages sur BDSM. J'ai aussi enregistré un bon nombre de podcasts. Vous pouvez déjà trouver pas mal de réponses dans cela. Donc, le premier réflexe, à mon avis, c'est déjà d'aller un petit peu lire ce que j'ai écrit et écouter ce que j'ai enregistré. Ça pourra déjà vous aider. Mais je comprends bien que le problème, c'est que quand on écrit des articles, quand on enregistre des podcasts, ça peut pas être spécifique à votre cas, ça ne peut pas répondre exactement à votre question, dans votre situation, dans votre contexte. Je l'ai déjà écrit et dit quand j'ai parlé des rencontres, où évidemment, donner des grandes généralités, c'est bien, c'est utile, mais évidemment, c'est pas aussi bien que de pouvoir répondre à une question précise que vous allez poser, où là, effectivement, j'ai beau faire de mon mieux, il y a quand même une sérieuse limite, je peux pas répondre aux questions de tout le monde, et là, ça se comprend que vous ayez envie d'aller consulter, par exemple, un ou une sexologue. Mais quand même, ne négligez pas ces pistes. À défaut de répondre à des questions vraiment très spécifiques, vous aurez au moins des réponses à pas mal de grandes questions de fond dans mes articles et dans mes podcasts. C'est une bonne source d'information, donc ne la négligez pas. Il y a de quoi lire et de quoi écouter, ça fait plus de 7 ans que je travaille sur ces projets-là, et je réponds déjà à beaucoup de questions que vous pourriez vous poser si vous ne connaissiez pas déjà mon site et mon podcast. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des remarques, des questions, des suggestions d'articles pour mon site ou d'épisodes pour le podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous trouverez aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.